Émile et les détectives par Erich Kästner, quatrième cassette, deuxième face, page 190. Il m'arriva exactement la même chose avec mon histoire pendant que j'étais occupé à compter les pieds de table et que je pensais à Émile. Et sans doute aussi vous arrive-t-il à vous-même parfois quelque chose d'analogue. Toujours étendu, je saisis mes souvenirs qui me tombaient de tous côtés comme le font les idées. Enfin, je parvins à les réunir et mon histoire était finie. Je n'avais plus qu'à m'asseoir et à l'écrire ligne par ligne. C'est ce que je fis. Sans cela, vous n'auriez pas en ce moment le livre d'Émile dans les mains. Auparavant, cependant, je me débarrassai rapidement de quelque chose d'autre. J'écrivis la liste des objets dans l'ordre où ils s'étaient précipités vers moi, comme les habits du monsieur, tu te rappelles, la botte gauche, le col, la canne, la cravate, la chaussette droite, etc., etc. Une histoire, un roman, un conte ressemblent à des êtres humains. Ils en sont peut-être. Ils ont des têtes, des jambes, des appareils circulatoires, et des vêtements comme de véritables hommes. Et si le nez leur manque au milieu du visage, ou s'ils ont deux souliers différents, on le remarque en les regardant attentivement. Pour mieux expliquer comment m'est venue l'idée de cette histoire, je voudrais reproduire devant vous le petit bombardement qui a projeté sur moi, pêle-mêle, les parties, les éléments, les idées du récit. C'est ce que j'ai fait au début du livre, au début de la première face de la première cassette, dans la présentation des principaux personnages de l'histoire et des lieux où elle se passe. Peut-être serez-vous assez malin pour réunir vous-même ces éléments. C'est un travail dans le genre de celui que vous faites avec les jeux de construction qu'on vous donne quand vous bâtissez une gare ou une église. Supposez seulement que vous n'avez pas de modèle et qu'il ne doit pas rester un seul petit morceau inutilisé. C'est presque un examen. Mais il n'y aura pas de sanction, Dieu merci. Fin de l'histoire d'Émile et les détectives. L'histoire d'Émile et les détectives est finie. Quelques mots sur l'auteur, Erich Kästner, qui s'est mis d'ailleurs lui-même en scène deux fois dans ce livre, tout à fait à la fin du livre, quand il raconte comment est né ce livre, et un peu avant, tu as remarqué, tu n'as peut-être pas remarqué, que le journaliste s'appelle Kästner, K-A-T-S-T-N-E-R. Tu sais, le journaliste qui paye d'abord le ticket de tramway pour Émile et qui ensuite l'emmène dans son journal pour l'interroger et le faire photographier et le faire paraître un grand article sur lui. Eh bien, Erich Kästner est né à Dresde, D-R-E-S-D-E, qui est maintenant en Allemagne orientale, en 1899. Il a écrit des poèmes, puis des romans pour les enfants et les adultes, enfin des souvenirs d'enfance. Émile et les détectives a été écrit en 1928. Si Émile était vivant, ce serait maintenant un vieux monsieur. Humoriste, il tenta avec plusieurs écrivains allemands de l'époque de défendre par la satire la liberté menacée, et Hitler fit brûler ses livres, comme beaucoup d'autres, en 1933. Pourtant, Kästner ne quitta pas son pays, l'Allemagne, où il mourut en 1974. Ses œuvres ont eu un très grand succès, et il a reçu en 1960 un prix, le prix Hans Christian Andersen, Grand Prix international de littérature enfantine. Pour compléter cette cassette, Je vais maintenant prendre un auteur tout différent. Il s'agit d'un conte qui se trouve dans les lettres de mon moulin d'Alphonse Daudet, D-A-U-D-E-T, dont tu connais certainement la chèvre de M. Seguin. Ce conte s'appelle Le curé de Cucugnan. C-U-C-U-G-N-A-N. Cucugnan est un village du midi de la France. L'abbé Martin était curé de Cucugnan. Bon comme le pain, franc comme l'or, il aimait paternellement ses Cucugnanais. Pour lui, son Cucugnan aurait été le paradis sur terre si les Cucugnanais lui avaient donné un peu plus de satisfaction. Mais hélas, les araignées filaient dans son confessionnal et le beau jour de Pâques, les hosties restaient au fond de son Saint-Ciboire. Le bon prêtre en avait le cœur meurtri et toujours il demandait à Dieu la grâce de ne pas mourir avant d'avoir ramené au bercail son troupeau dispersé. Or, vous allez voir que Dieu l'entendit. Un dimanche, après l'évangile, l'abbé Martin monta en chaire. C-H-A-I-R-E. C'est là que parlait le prêtre autrefois dans les églises. Maintenant, ils ont des micros. Mes frères, dit-il, vous me croirez si vous voulez, l'autre nuit, je me suis trouvé, moi, misérable pécheur, à la porte du paradis. Je frappai, Saint-Pierre m'ouvrit.
Tiens, c'est vous, mon brave monsieur Martin, me fit-il. Quel bonbon et qu'y a-t-il pour votre service?
Beau Saint-Pierre, vous qui tenez le grand livre de ceux qui sont au ciel et la clé du paradis, pourriez-vous me dire, si je ne suis pas trop curieux, combien vous avez de Cucugnanais en paradis?
Je n'ai rien à vous refuser, monsieur le curé. Asseyez-vous, nous allons voir la chose ensemble. Et Saint-Pierre prit son gros livre, l'ouvrit, mit ses besicles. Voyons un peu. Cucugnan, disons-nous. Cucugnan. Nous y sommes, Cucugnan.
Mon brave monsieur Martin, la page est toute blanche. Pas une âme. Pas plus de Cucugnanais que d'arêtes dans une dinde. Comment ? Personne de Cucugnan ici ? Personne ? Mais ça n'est pas possible, regardez mieux. Personne, saint homme. Regardez vous-même, si vous croyez que je plaisante. Moi, je frappais des pieds, des mains jointes, je criais miséricorde. Alors, Saint-Pierre, croyez-moi, monsieur Martin, il ne faut pas ainsi vous mettre le cœur à l'envers, car vous pourriez en avoir quelques mauvais coups de sang. Ce n'est pas votre faute, après tout. Vos Cucugnanais, voyez-vous, doivent faire à coup sûr leur petite quarantaine en purgatoire.
Oh, par pitié, grand Saint-Pierre, faites que je puisse au moins les voir et les consoler.
Volontiers, mon ami. Tenez, chaussez vite ces sandales, car les chemins ne sont pas beaux de reste. Voilà qui est bien. Maintenant, cheminez droit devant vous. Vous voyez là-bas, au fond, en tournant, vous trouverez une porte d'argent toute constellée de croix noires, à main droite. Vous frapperez et on vous ouvrira. Adessias, tenez-vous sain et gaillardet. Et je cheminais.
Quelle battue! J'en ai la chair de poule rien que d'y songer. Un petit sentier plein de ronces, d'escarboucles qui luisaient et de serpents qui sifflaient m'amena jusqu'à la porte d'argent.
Qui frappe ? Fait une voix rauque et violente et dolente.
Le curé de Cucugnan.
De Cucugnan. Ah ! Entrez !
J'entrai. Un grand bel ange, avec des ailes sombres comme la nuit, avec une robe resplendissante comme le jour, avec une clé de diamant pendue à sa ceinture, écrivait crac, 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 dans un grand livre plus gros que celui de Saint-Pierre.
« Finalement, que voulez-vous et que demandez-vous » dit l'ange.
« Mais l'ange de Dieu, je veux savoir, je suis bien curieux peut-être, si vous avez ici des cucugnanais, les cucugnanais, les gens de Cucugnan, c'est moi qui suis leur curé. »
Ah, l'abbé Martin, n'est-ce pas?
Pour vous servir, monsieur l'ange.
Vous dites donc que Cucugnan...
Et l'ange ouvre et feuillette son grand livre, mouillant son doigt de salive pour que le feuillet glisse mieux. Cucugnan. Dit-il en poussant un long soupir.
Monsieur Martin, nous n'avons en purgatoire personne de Cucugnan.
Jésus, Marie-Joseph, personne de Cucugnan en purgatoire? Ô grand Dieu, où sont-ils donc?
Hé, saint homme, ils sont en paradis. Où diantre voulez-vous qu'ils soient?
Hé, j'en viens du paradis. Vous en venez, eh bien? Bien, ils n'y sont pas. Ah, bonne mère des anges. Que voulez-vous, monsieur le curé?
S'ils ne sont ni en paradis, ni en purgatoire, il n'y a pas de milieu, ils sont...
Sainte Croix, Jésus, fils de David, aïe, 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 est-il possible?
Serait-ce un mensonge du grand Saint-Pierre? Pourtant, je n'ai pas entendu chanter le coq, hein.
Aïe, pauvre de nous, comment irai-je en paradis si mes cucugnanais n'y sont pas?
Écoutez, mon pauvre monsieur Martin, puisque vous voulez, coûte que coûte, être sûr de tout ceci et voir de vos yeux de quoi il retourne, prenez ce sentier, filez en courant si vous savez courir. Vous trouverez à gauche, un grand portail. Là, on vous renseignera sur tout. Dieu vous le donne.
Et l'ange ferma la porte. C'était un long sentier, tout pavé de braises rouges. Je chancelais comme si j'avais bu. À chaque pas, je trébuchais. J'étais tout en eau. Chaque poil de mon corps avait sa goutte de sueur et je haletais de soif. Mais, ma foi, grâce aux sandales que le bon Saint-Pierre m'avait prêtées, je ne me brûlais pas les pieds. Quand j'eus fait assez de faux pas, clopin, clopin, je vis à ma main gauche une porte. Non, un portail, un énorme portail, tout bâillant comme la porte d'un grand fou. Oh, mes enfants, quel spectacle! Là, on ne demande pas mon nom. Là, point de registre. Par fournée, à pleine porte, on entre là, mes frères, comme le dimanche, vous entrez au cabaret. Je suais à grosses gouttes, et pourtant j'étais transi, j'avais le frisson. Mes cheveux se dressaient, je sentais le brûlé, la chair rôtie. Quelque chose comme l'odeur qui se répand dans notre Cucugnan quand Éloi le maréchal Ferrand, brûle pour la ferrer la botte d'un vieil âne. Je perdais haleine dans cet air puant et embrasé. J'entendais une clameur horrible, des gémissements, des hurlements, des jurements.
Eh bien, entres-tu ou n'entres-tu pas, toi? Me fait en piquant de sa fourche un démon cornu.
Moi, je n'entre pas. Je suis un ami de Dieu.
Tu es un ami de Dieu? Eh ben, bougre teigneux, que viens-tu faire ici?
Je viens... Oh, ne m'en parlez pas, que je ne puis plus me tenir sur mes jambes. Je viens de loin, humblement, vous demander si... Si par coup de hasard, vous n'auriez pas ici Quelqu'un de cucugnant.
Ha 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 ! Feu de Dieu, tu fais la bête ! Toi, comme si tu ne savais pas que tout cucugnant est ici. Tiens, les corbeaux, regarde. Et tu verras comme nous les arrangeons ici, tes fameux cucugnanais.
Et je vis, au milieu d'un épouvantable tourbillon de flammes, le long coq Galine, vous l'avez tous connu, mes frères, coq Galine qui se grisait si souvent et si souvent secouait les puces à sa pauvre clairon. Je vis Catharinette, cette petite gueuse, avec son nez en l'air, qui couchait toute seule à la grange. Il vous en souvient, mes drôles. Mais passons, j'en ai trop dit. Je vis Pascal Doigt de Poix, qui faisait son huile avec les olives de Monsieur Julien. Je vis Babet, la glaneuse, qui en glanant pour avoir plus vite noué sa gerbe, puisait à pleine poignée au gerbier. Je vis Maître Grappasi, qui huilait si bien la roue de sa brouette, et Dauphine, qui vendait si cher l'eau de son puits, et le Tortillard, qui, lorsqu'il me rencontrait portant le bon Dieu, filait son chemin, la barrette sur la tête et la pipe au bec, et fier comme Artaban, comme s'il avait rencontré un chien, et Coulot avec sa zette, et Jacques, et Pierre, et Tony. Ému, blême de peur, l'auditoire gémit, en voyant dans l'enfer tout ouvert qui son père et qui sa mère, qui sa grand-mère et qui sa sœur. Vous sentez bien, mes frères, reprit le bon abbé Martin, vous sentez bien que ceci ne peut pas durer. J'ai charge d'âme et je veux vous sauver de l'abîme. Vous êtes tous en train de rouler tête première. Demain, je me mets à l'ouvrage, pas plus tard que demain. Et l'ouvrage ne manquera pas. Voici comment je m'y prendrai. Pour que tout se fasse bien, il faut tout faire avec ordre. Nous irons rang par rang, comme à Jonquière quand on danse. Demain, lundi, je confesserai les vieux et les vieilles. Ce n'est rien. Mardi, les enfants. J'aurai bientôt fait. Mercredi, les garçons et les filles. Cela pourra être long. Jeudi, les hommes. Nous couperons court. Vendredi, les femmes. Je dirai pas d'histoire. Samedi, le meunier. Ce n'est pas trop d'un jour pour lui tout seul. Et si dimanche nous avons fini, nous serons bien heureux. Voyez-vous, mes enfants, quand le blé est mûr, il faut le couper. Quand le vin est tiré, il faut le boire. Voilà assez de linge sale, il s'agit de le laver et de le bien laver. C'est la grâce que je vous souhaite. Amen. Ce qui fut dit fut fait. On coula la lessive. Et depuis ce dimanche mémorable, le parfum des vertus de Cucugnan se respire à 10 lieues alentour. Et le bon pasteur, Monsieur Martin, heureux et plein d'allégresse, a rêvé l'autre nuit que, suivi de tout son troupeau, il gravissait en resplendissante procession au milieu des cierges allumés, d'un nuage d'encens qui embaumait et des enfants de cœur qui chantaient Te Deum, le chemin éclairé de la cité de Dieu.
Voici pour finir un autre conte tiré des Lettres de Montmoulin d'Alphonse Daudet. Le secret de Maître Cornille, C-O-R-N-I-2-L-E. Français Mamaille, F-R-A-N-C-E-T, plus loin M-A-I-T-R-E-M-A, un vieux joueur de fifre qui vient de temps en temps faire la veillée chez moi en buvant du vin cuit, m'a raconté l'autre soir un petit drame de village dont Montmoulin a été témoin il y a quelque 20 ans. Le récit du bonhomme m'a touché et je vais essayer de vous le redire tel que je l'ai entendu. Imaginez-vous pour le moment que vous êtes assis devant un pot de vin tout parfumé et que c'est un vieux joueur de fifre qui vous parle. Notre pays, mon bon monsieur, n'a pas toujours été un endroit mort et sans renom comme il est aujourd'hui. Autre temps, il s'y faisait un grand commerce de meunerie et 10 lieues à la ronde, les gens des mâts nous apportaient leur blé à moudre. Tout autour du village, les collines étaient couvertes de moulins à vent. De droite et de gauche, on ne voyait que des ailes qui viraient au mistral par-dessus les pins, des ribambelles de petits ânes chargés de sacs montant et dévalant le long des chemins. Et toute la semaine, c'était plaisir d'entendre sur la hauteur le bruit des fouets, des craquements de la toile et le « Dia-hu !» des aides-meuniers. Le dimanche, nous allions au moulin, par bande. Là-haut, les meuniers payaient le muscat. Les meunières étaient belles comme des reines, avec leurs fichus de dentelle et leurs croix d'or. Moi, j'apportais mon fif, et jusqu'à la noire nuit, on dansait des farandoles. Ces moulins-là, voyez-vous, faisaient la joie et la richesse du pays. Malheureusement, des Français de Paris eurent l'idée d'établir une minoterie à vapeur sur la route de Tarascon. Ah, tout beau, tout nouveau. Les gens prirent l'habitude d'envoyer leur blé aux minotiers, et les pauvres moulins à vent restèrent sans ouvrage. Pendant quelque temps, ils essayèrent de lutter, mais la vapeur fut la plus forte, et l'un après l'autre pécaillèrent. Ils furent tous obligés de fermer. On ne vit plus venir les petits ânes. Les belles meunières vendirent leurs croix d'or. Plus de muscat, plus de farandole. Le mistral avait beau souffler, les ailes restaient immobiles. Puis, un beau jour, la commune fit jeter toutes ses masures à bas et l'on sema à leur place de la vigne et des oliviers. Pourtant, au milieu de la débâcle, un moulin avait tenu bon et continuait de virer courageusement sur sa butte à la barbe des minotiers. C'était le moulin de Maître Cornille, celui-là même où nous sommes en train de faire la veillée en ce moment. Maître Cornille était un vieux meunier, vivant depuis 60 ans dans la farine et enragé pour son métier. L'installation des minoteries l'avait rendu comme fou. Pendant 8 jours, on le vit courir par le village, ameutant le monde autour de lui et criant de toutes ses forces qu'on voulait empoisonner la Provence avec la farine des minotiers. « N'allez pas là-bas, disait-il, ces brigands-là, pour faire le pain, se servent de la vapeur, qui est une invention du diable. » Tandis que moi, je travaille avec le mistral et la tramontane, qui sont la respiration du bon Dieu. » Et il trouvait comme cela une foule de belles paroles à la louange des moulins à vent. Mais personne ne les écoutait. Alors, de mal rage, le vieux s'enferma dans son moulin et vécut tout seul, comme une bête farouche. Il ne voulut pas même garder près de lui sa petite fille Vivette, une enfant de 15 ans qui, depuis la mort de ses parents, n'avait plus que son grand-père au monde. La pauvre petite fut obligé de gagner sa vie et de se louer un peu partout dans les mâts pour la moisson, les magnans, les olivades. Et pourtant, son grand-père avait l'air de bien l'aimer, cet enfant-là. Il lui arrivait souvent de faire ses 4 lieues à pied par le grand soleil pour aller la voir au mât où elle travaillait. Et quand il était près d'elle, il passait des heures entières à la regarder en pleurant. Dans le pays, on pensait que le vieux meunier, en renvoyant Vivette, avait agi par avarice. Et cela ne lui faisait pas honneur de laisser sa petite fille ainsi traîner d'une ferme à l'autre, exposée aux brutalités des bailes, des valets, et à toutes les misères des jeunesses qui travaillent chez les autres. On trouvait très mal aussi qu'un homme du renom de Maître Cornille, et qui jusque-là s'était respecté, s'en alla maintenant par les rues comme un vrai bohémien, pieds nus, le bonnet troué, la tailleule, la blouse, en lambeaux. Le fait est que le dimanche, lorsque nous le voyons entrer à la messe, nous avions honte pour lui, nous autres les vieux. Et Cornille le sentait si bien qu'il n'osait plus venir s'asseoir sur le banc d'œuvre. Toujours il restait au fond de l'église, près du bénitier, avec les pauvres. Dans la vie de Maître Cornille, il y avait quelque chose qui n'était pas clair. Depuis longtemps, personne au village ne lui portait plus de blé, et pourtant les ailes de son moulin allaient toujours leur train comme devant. Le soir, on rencontrait par les chemins le vieux meunier, poussant devant lui son âne chargé de gros sacs de farine. « Bonsoir, Maître Cornille !» lui criaient les paysans. « Ça va donc toujours, la meunerie ?»« Toujours, mes enfants !» répondait le vieux d'un air gaillard. « Oh, Dieu merci, c'est pas l'ouvrage qui nous manque !» Alors, si on lui demandait d'où diable pouvait venir tant d'ouvrages, il se mettait un doigt sur les lèvres et répondait gravement. « Chut, Motus, je travaille pour l'exportation !» Jamais on n'en put tirer davantage. Quant à mettre le nez dans son moulin, il n'y fallait pas songer. La petite Vivette elle-même n'y entrait pas. Lorsqu'on passait devant, on voyait la porte toujours fermée, les grosses ailes toujours en mouvement, le vieil âne broutant le gazon de la plateforme et un grand chat maigre qui prenait le soleil sur le rebord de la fenêtre et vous regardait d'un air méchant. Tout cela sentait le mystère et faisait beaucoup jaser le monde. Chacun expliquait à sa façon le secret de Maître Cornille, mais le bruit général était qu'il y avait dans ce moulin-là encore plus de sacs d'écu que de sacs de farine. À la longue, pourtant, tout se découvrit. Voici comment. En faisant danser la jeunesse avec mon fifre, je m'aperçus un beau jour que l'aîné de mes garçons et la petite Vivette s'étaient rendus amoureux l'un de l'autre. Au fond, je n'en fus pas fâché, parce qu'après tout, le nom de Cornille était en honneur chez nous. Et puis, ce joli petit passereau de Vivette m'aurait fait plaisir à voir trotter dans ma maison. Seulement, comme nos amoureux avaient souvent l'occasion d'être ensemble, je voulus, de peur d'accident, régler l'affaire tout de suite, et je montai jusqu'au moulin pour en toucher deux mots au grand-père. Ah ! Le vieux sorcier, il faut voir de quelle manière il me reçut. Impossible de lui faire ouvrir sa porte. Je lui expliquai mes raisons tant bien que mal à travers le trou de la serrure, et tout le temps que je parlais, il y avait ce coquin de chat maigre qui soufflait comme un diable au-dessus de ma tête. Le vieux ne me donna pas le temps de finir et me cria fort malhonnêtement de retourner à ma flûte, que si j'étais pressé de marier mon garçon, je pouvais bien aller chercher des filles à la minoterie. Pensez que le sang me montait d'entendre ces mauvaises paroles. Mais j'eus tout de même assez de sagesse pour me contenir, et laissant ce vieux fou à sa meule, je revins annoncer aux enfants ma déconvenue. Ces pauvres agneaux ne pouvaient pas y croire. Ils me demandèrent comme une grâce de monter tous deux ensemble au moulin pour parler au grand-père. Je n'eus pas le courage de refuser, et flouf, voilà mes amoureux partis. Tout juste comme ils arrivaient là-haut, Maître Cornille venait de sortir. La porte était fermée à double tour, mais le vieux bonhomme, en partant, avait laissé son échelle dehors, et tout de suite l'idée vint aux enfants d'entrer par la fenêtre, voir un peu ce qu'il y avait dans le fameux moulin. Chose singulière, la chambre de la meule était vide. Pas un sac, pas un grain de blé, pas la moindre farine au mur ni sur les toiles d'araignée. On ne sentait même pas cette bonne odeur chaude de froment écrasé qui est en baume dans les moulins. L'arbre de couche était couvert de poussière et le grand chat maigre dormait dessus. La pièce du bas avait le même air de misère et d'abandon. Un mauvais lit, quelques guenilles, un morceau de pain sur une marche d'escalier, et puis dans un coin, trois ou quatre sacs crevés d'où coulaient des gravats et de la terre blanche. C'était là le secret de Maître Cornille. C'était ce plâtras qu'il promenait le soir sur les routes pour sauver l'honneur du moulin et faire croire qu'on y faisait de la farine. Ah, pauvre moulin, pauvre Cornille. Depuis longtemps, les minotiers leur avaient enlevé leur dernière pratique. Les ailes viraient toujours, mais la meule tournait à vide. Les enfants revinrent tout en larmes, me conter ce qu'ils avaient vu. J'eus le cœur crevé de les entendre. Sans perdre une minute, je courus chez les voisins. Je leur dis la chose en deux mots, et nous couvîmes qu'il fallait, sur l'heure, porter au moulin Cornille tout ce qu'il y avait de froment dans les maisons. Sitôt dit, sitôt fait, tout le village se met en route, et nous arrivons là-haut avec une procession d'ânes chargées de blé. Du vrai blé, celui-là. Le moulin était grand ouvert. Devant la porte, Maître Cornille, assis sur un sac de plâtre, pleurait la tête dans ses mains. Il venait de s'apercevoir en rentrant que pendant son absence, on avait pénétré chez lui et surpris son secret. « Pauvre de moi, disait-il, maintenant je n'ai plus qu'à mourir, le moulin est déshonoré. » Et il sanglotait à fendre l'âme, appelant son moulin par toutes sortes de noms, lui parlant comme à une personne véritable. À ce moment, les ânes arrivent sur la plateforme et nous nous mettons tous à crier bien fort, comme au temps des meuniers. « Ohé du moulin ! Ohé, Maître Cornille !» Et voilà les sacs qui s'entassent devant la porte et le beau grain roux qui se répand par terre de tous côtés. Maître Cornille ouvrait de grands yeux, il avait pris du blé. Dans le creux de sa vieille main, il disait, riant et pleurant à la fois, « C'est du blé, Seigneur Dieu, du bon blé, laissez-moi que je le regarde !» Puis se tournant vers nous, « Ah, je savais bien que vous me reviendriez, tous ces minotiers sont des voleurs !» Nous voulions l'emporter en triomphe au village. Non, non, mes enfants, il faut avant tout que j'aille donner à manger à mon moulin. Pensez donc, il y a si longtemps qu'il ne s'est rien mis sous la dent. Et nous avions tous des larmes dans les yeux de voir le pauvre vieux se démener de droite et de gauche, éventrant les sacs, surveillant la meule tandis que le grain s'écrasait et que la fine poussière de froment s'envolait au plafond. C'est une justice à nous rendre. À partir de ce jour-là, jamais nous ne laissâmes le vieux meunier manquer d'ouvrage. Puis un matin, Maître Cornille mourut. Et les ailes de notre dernier moulin cessèrent de virer pour toujours cette fois. Cornille mort, personne ne prit sa suite. Que voulez-vous, monsieur ? Tout a une fin en ce monde, et il faut croire que le temps des moulins avant était passé. comme celui des coches d'eau sur le Rhône, des parlements et des jaquettes à grandes fleurs. Fin de la deuxième face de la quatrième et dernière cassette, Émile et les détectives d'Erich Kästner, suivi du curé de Cucugnan et du secret de Maître Cornille d'Alphonse Daudet.